Bonjour à tous et meilleurs vœux à chacun. Bonne année. J'espère qu'elle a bien commencé. Merci. D'abord, j'aimerais m'excuser, vous demander de bien vouloir m'excuser. Je suis vraiment arrivé à la bourse ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu. Je crois que le président a eu un petit peu peur. En fait, j'ai confondu l'heure ce matin. J'étais levé tôt, mais je pensais que c'était 8 heures et c'était déjà 9 heures. Et tout à coup, il a fallu. Voilà. C'était pas encore l'heure d'été, mais. Donc, j'ai fait Annemasse vers soi en une demi-heure. C'est quand même. Non, pas en vélo, en scooter. Mais... Le 36, parce qu'il y avait des voitures devant. C'est le reste que j'ai. Voilà. Donc, je suis désolé, j'aime pas ça du tout, arriver un petit peu à la bourre comme ça. Voilà. Je me réjouis de passer ce moment avec vous et de débuter l'année avec vous, même si elle a commencé il y a déjà 15 jours, 12 jours maintenant. Et puis, je crois que vous êtes dans ce thème. L'année dernière, c'était des histoires inspirantes et vous êtes entré dans cette réflexion de trouver la sagesse, le discernement, pour écouter Dieu, pour comprendre quelle est sa volonté. Et ce matin, j'aimerais partager quelques points au travers de la vie de Daniel, du prophète Daniel, parce que je crois que c'était un homme sage, c'était un homme inspiré, c'était un homme de discernement et un homme qui a marqué son époque. Et puis on en parle encore aujourd'hui, on a tout un livre qui parle de lui, des choses qu'il a reçues de la part de Dieu. Alors que le Seigneur nous inspire au travers de cela. Alors il y a un PowerPoint, je ne sais pas s'il fonctionne bien, ça va aller. Mais si ça ne va pas, on ne le prend pas. Hein. Parce qu'il y a des fois des petits défis de technologie entre l'un à l'autre. Voilà. Avant qu'on aille dans Daniel, ce matin, quand je priais, je lisais mon courrier, puis j'ai reçu un petit message qu'on reçoit avec une pensée. C'est une citation de Bob Gass, vous savez, cet homme qui a écrit « Sa parole pour aujourd'hui ». Bon, peu importe si vous le connaissez pas, mais un homme qui a écrit des tas de méditations quotidiennes vraiment inspirantes. Et ça m'a parlé, et j'aimerais vous le laisser pour cette année, pour vous, pour commencer cette méditation sur Daniel. Quand nous réduisons Dieu à notre compréhension... Ouais, c'est là. Donc quand on pense à Dieu et qu'on veut le mettre dans la boîte de nos pensées, de notre intelligence, de notre humanité, de ce qu'on comprend, on court le risque de nous mettre à prier 100 fois. En fait, on va prier parce qu'on sait comment les choses se déroulent et parce qu'on sait comment la vie est faite et on connaît nos faiblesses et on connaît... Voilà. On court le risque de travailler sans passion. On court le risque de servir sans joie et on court le risque de souffrir sans espoir. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a interpellé cette parole. Et on doit toujours se souvenir que Dieu est tellement plus grand que ce que l'on comprend de lui, que l'expérience que nous en avons, que simplement ce qui peut rentrer dans la petite boîte de nos têtes, de notre intelligence. Il est tellement plus grand. Et je trouve que le prophète Daniel, le livre de Daniel nous rappelle ça. C'est un homme qui a marqué son temps. Et voilà, Seigneur, on prie que, au travers de ce partage et de toute cette année, Seigneur, tu nous fasses réaliser, on l'a chanté encore, que tu es tellement plus grand que nous. Tellement plus grand que ce qu'on peut comprendre et que ce qu'on peut saisir. Et Seigneur, on veut rester comme des enfants qui se laissent éblouir, étonner. Seigneur, que notre foi soit pas limitée à ce qu'on comprend de toi, mais... qu'elle soit inspirée par ta grandeur. Et merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Alors, Daniel. Daniel, un prophète bien connu. Et on va commencer en lisant quelques textes dans le chapitre 10, les versets 11 à 19. Il est appelé « homme bien-aimé ». Et je crois que c'est bien qu'on se souvienne, tu peux afficher les textes suivants. On va les lire, on va lire tout ce passage. C'est chapitre 10. Hein, Daniel est en train de prier. On va revenir au début de sa vie hein, après, parce que je crois que c'est là l'important pour nous aujourd'hui. Mais là, il est vers la fin de sa vie, il est en train de jeûner, de prier, et Dieu le visite. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » On pourrait lire tout le chapitre 10, on ne va pas faire ça ce matin, mais ce texte, vraiment, je crois, doit nous encourager. Et je crois que Dieu nous dit, je ne sais pas si tu cliques, si on voit les couleurs, voilà. Quand Dieu le visite, et est-ce qu'on s'attend à ça quand Dieu nous parle, qu'il va nous dire en premièrement, puisque ce matin, je suppose que nous tous, nous l'avons rencontré au travers de Jésus-Christ, son Fils, que nous sommes entrés dans le salut. Eh bien, nous sommes ses bien-aimés. Et il va dire à Daniel, homme bien-aimé. Et quand on s'approche de notre Père, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être en nous. Hein. La culpabilité, donc on a un peu honte, on a un peu de peur, on a un peu de crainte, on a envie de se cacher. Mais Jésus nous a révélé que notre Dieu, c'était un Père qui nous aime. Et même s'il voit ce qui ne va pas en nous, mais il nous accueille comme un Père. Et nous sommes ses bien-aimés. Et dans l'histoire de Daniel, ce mot bien-aimé, ça revêt encore un élément supérieur. Je crois à cause de ses choix, à cause de sa position, il est un instrument de choix dans le plan de Dieu. Mais première chose qu'on doit saisir, que j'aimerais vous laisser, cultiver cette année, dans votre recherche de la direction de Dieu en tant qu'Église, aussi en tant que personne, le fait que d'abord, vous êtes des bien-aimés. Vous êtes des bien-aimés. Souvent, je me suis battu avec ça lorsque je priais. La première des choses que je demandais à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi. » Parce que, à cause peut-être d'enseignement, ou la manière dont on nous a présenté certaines doctrines, ou la manière de nous approcher de Dieu, on a été marqué par le péché, cette nature mauvaise qui est en nous, puis on l'a expérimenté, on sait bien qui on est. Et parfois, notre première pensée, on pense que Dieu est fâché avec nous, et on lui demande pardon. Alors, c'est très bien de demander pardon à Dieu, et c'est juste de se repentir. Mais, est-ce qu'on ne doit pas être émerveillé aussi par son amour ? Je pense que plusieurs parmi nous ont eu des enfants. J'ai eu le bonheur d'avoir 4 enfants. J'ai 3 petits-enfants, pardon. Ça allait tellement vite d'un coup. Mais quand ils arrivent, en tant que père, en tant que parent, peu importe qu'ils aient la couche remplie, qu'ils aient fait des bêtises, on les prend dans nos bras, on les accueille avec joie. Vous êtes d'accord ? Bon, y a des moments où on a envie un peu s'ils grandissent, mais quand même, en tant que père, ils nous réjouissent, même si ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont, nous. Et pensons à ça, quand on s'approche de Dieu notre Père, il nous accueille comme ses bien-aimés. Adam, après la chute, quand Dieu vient le visiter, qui parle, qui dit « Adam, t'es où ?» Il a eu peur et il est parti se cacher. Et un jour, le Seigneur m'a dit, on vit souvent avec ce réflexe d'Adam. Un enfant qui a été peut-être battu ou qui a été corrigé outre mesure, quand il s'approche de son père, peut-être à cause de ce qu'il a reçu, il va faire comme ça parce qu'il a peur alors que son père voulait lui. Et nous, à cause de notre héritage, on continue de vivre parfois avec cette espèce de réflexe qu'avait Adam, on a peur et on veut se cacher. Mais en Jésus, notre père nous accueille et nous sommes adoptés, nous sommes ses bien-aimés. Ensuite, Dieu va le dire à Daniel, sois attentif aux paroles, si tu cliques, ça va devenir rouge, normalement. Sois attentif aux paroles. Quand on s'approche de lui, attendons-nous à ce qu'il nous parle. Je crois que vous entamez une période où vous allez prier d'une manière plus spécifique, je ne sais pas si c'est juste le conseil, toute l'église, mais croyons que Dieu va nous parler. Croyez que Dieu va vous parler. Et il a parlé à Daniel, et le Seigneur, c'est étonnant, il lui dit, mais sois attentif à ce que je vais te dire. Et je vous encourage à noter toutes les choses que Dieu vous dit. Déjà, que Dieu vous dit, pardon. Déjà, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, est-ce que vous avez développé cette habitude d'avoir un cahier où vous notez les choses que vous savez que Dieu vous dit personnellement ? Soit quand vous lisez sa parole, ou peut-être une parole prophétique qui vous a été donnée. Écrivez-les, ne les laissez pas tomber. Ça vous aidera peut-être à les discerner, puis dans le temps, vous allez dire ça, c'était vraiment de Dieu, ça c'était peut-être un peu humain. Mais souvent, on les oublie. Et Dieu doit rappeler à Daniel, sois attentif. Soyez attentif à ce que Dieu va vous dire. Parce que quand on lui demande, il nous parle. Ensuite, il lui dit, et toi, tiens-toi debout à la place où tu es. C'est juste l'introduction à mon message. Mais je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut laisser pour vous vers soi, pour les responsables, mais pour chacun. Il va dire ensuite à Daniel, qui est dans une situation pas simple, il est dans un pays, il a été déporté avec son peuple, il est dans un pays païen, mais Dieu lui a donné une place, il est en train de servir avec autorité, et il va lui rappeler, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout à la place où tu es. Est-ce que nous croyons, et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous croyez, si en tant qu'individu, en tant qu'église, que vous êtes la personne de la situation? Amen. Merci. Pour Dieu, à vers soi. Il y a bien plein d'autres chrétiens, bien sûr. L'église est bien plus grande que juste la petite l'assemblée ici, pardon, pour la petite. L'assemblée. Excusez-moi. C'est bien qu'on se repente. Hein. Mais vous avez compris ce que je vais dire. Mais est-ce que nous croyons, en tant qu'individu et en tant qu'assemblée, que nous sommes l'homme ou l'assemblée de la situation pour les projets que Dieu a pour nous? Est-ce qu'on le croit? Et il y a des moments dans nos vies, Dieu nous dit, maintenant, lève-toi. C'est moi qui t'ai placé là. C'est moi qui t'ai placé dans cette situation. C'est moi qui t'ai fait vivre en 2020, en janvier, le 12 janvier 2020, et j'ai des œuvres préparées d'avance, j'ai un plan, et je m'attends à ce que tu le remplisses, et si toi tu le fais pas, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Et ça, on peut le prendre pour nous personnellement, mais aussi en tant qu'assemblée. Et je vous encourage, c'est comme si Dieu dit à Daniel, il valide son appel, il l'encourage, il lui dit, mais c'est bien là que je te veux, alors tiens-toi debout. Être debout, ça veut dire, je suis l'homme de la situation. Si Dieu m'a placé là, c'est parce que j'ai une action à faire, j'ai un service à faire, j'ai une autorité à exercer. J'ai une autorité à exercer. Vous avez une autorité à exercer pour cette ville, pour les plans de Dieu, ici à Versoix. Je suis maintenant envoyé vers toi. Puis Daniel se met à prier. Et ce qui est étonnant, si tu cliques encore une fois, dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre, dès le moment où Dieu voit un désir sincère de le chercher et de chercher son conseil, de comprendre et de vouloir sa volonté, il se met en route. Quand on lit tout le texte, hein, avant et après, on voit que Daniel il jeûne 21 jours et ça met un certain temps jusque la réponse de Dieu vienne. Hein, il y a ce fameux combat de 21 jours où pour ceux qui ont lu le prophète Daniel, il y a un combat dans le ciel avec les anges, avec les autorités, le monde spirituel mauvais. Et la réponse met 21 jours à arriver. Mais Dieu lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Hein, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et je vous encourage à croire cela. Vous avez à cœur de prier, de chercher la sagesse de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de ne pas vous tromper, de comprendre c'est quoi son plan, pas vous laisser paralyser peut-être par les choses du passé ou les mauvaises expériences ou simplement le fil de la vie. Bien, Dieu vous fait cette promesse et gardez ce texte et repensez-y dans l'année. Tes paroles, vos paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Et je crois que Dieu va venir et qu'il est déjà en route et il va vous parler, il va vous donner la stratégie, il va vous donner la sagesse, il va vous parler. L'apôtre Jacques, il dit, on reçoit pas parce qu'on demande pas. Mais je crois que je dis pas que vous priez pas avant, hein, c'est pas ça mon propos, mais il y a une démarche de demander. Et il y a cette promesse de Dieu qui va vous parler. Faites-le avec foi. Alors Daniel, qui est Daniel? Daniel, c'est un jeune homme. Quand on commence à parler de lui, il est adolescent, Il a entre 14 et 18 ans. Très très jeune. Chapitre 1 du livre de Daniel, quand il fait ses choix, ce qu'on va voir, et qu'il vraiment il se met à part. Il a été emmené captif. Son peuple, Israël, a désobéi. Ils ont persévéré dans leur désobéissance. Et malgré tous les avertissements de Dieu, le Seigneur va les déporter. On va lire ce texte juste après, mais on peut le laisser afficher. Il va les déporter. Et il va transporter la plus grande partie du peuple. Il commence d'abord par les plus jeunes, et puis les gens les leaders du pays. Il va les transporter à Babylone, dans un pays complètement différent du leur, un pays païen. Leur pays est détruit. Et Daniel, il a entre 14 et 18 ans. Il est très jeune. Il a tout perdu, sa famille, son pays, son avenir. Il va devenir esclave. Probablement, on n'est pas très sûr qu'il va devenir eunuque. On va en faire de lui un eunuque. Il n'y a pas de texte clair qui nous le dise, mais c'était fort probable. Donc il perd tout. Il perd beaucoup de choses. On va lire chapitre 1, versets 3 à 6. Je vous encourage à lire peut-être plus. Je veux lire avec vous. On voit cet ordre du roi qui, alors qu'Israël va être déporté, il va faire le choix d'emmener cette jeunesse. Le roi donne l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réserverait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc c'est le résumé de ce qu'on vient de dire. Et vous voyez ici, c'était le chef des eunuques. C'est pour ça qu'on pense que Daniel et ses amis sont devenus eunuques. Le texte ne nous le dit pas très clairement, mais il y a de fortes probabilités. On voit ici qu'il est de sang royal. Et il était d'une lignée, d'une haute lignée. Donc il avait déjà une éducation, il avait déjà un avenir quand il était en Israël. C'était une habitude quand il y avait un pays était conquérant et j'aurais de la peine à conjuguer le verbe conquérir. En fait, bref, quand ils entraient dans un pays et qu'ils voulaient le conquérir, les puissances étrangères souvent prenaient toutes les richesses du pays, à la fois les richesses matérielles, mais aussi intellectuelles. Et là, ils prennent la jeune génération qui est éduquée, qui est de sang royal, qui est déjà capable, hein, parce qu'ils veulent en faire leur leader. Et Daniel fait partie de ces jeunes gens. Et il va être donc mis dans une cour spéciale avec toute une élite de jeunes. Et on voit que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il désire faire de lui, de ses amis, il y en a beaucoup d'autres que ces quatre, l'élite future de son pays. Il va utiliser cette intelligence. Dieu nous a donné des capacités. Et Nebuchadnezzar, c'est un peu le monde, c'est le diable, c'est la vie qui court sans Dieu. Elle aimerait voler toute l'intelligence, les ressources, les dons que nous avons reçus, en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'église, pour les mettre à son service. Et Daniel, il aurait pu se faire... En fait, on va voir qu'il va bénir ce roi qui est mauvais, mais toutes ses capacités, les dons que Dieu lui a donnés vont servir pour le royaume de Dieu. Et il y a un combat pour les richesses que Dieu vous a données, qu'elles soient matérielles, intellectuelles, de passion, d'appel, pour que ça serve pour le royaume de Dieu. L'ennemi va toujours vouloir vous les voler et peut-être il va même vous donner des cas. Ils auraient pu être juste formés, avoir une belle place, devenir des gens influents, préservés, gardés, juste pour Babylone. Et il y en a plein, à mon avis, qui ont vécu ça. Mais Daniel et ses trois amis vont faire un choix bien différent. On a dit, qui est Daniel? Si tu peux mettre la slide suivante. C'est un adolescent, il a entre 14 et 18 ans. Il est de lignée royale, il est intelligent, il est doué, il est beau, c'est ce qu'on a lu, hein. C'était vraiment la crème qu'on prenait. Il est emmené captif à Babylone environ en 605 avant Jésus-Christ. Pourquoi j'ai mis les dates? C'est pour qu'on comprenne quelle durée il a la vie de Daniel. Et pendant tout ce temps, il va être d'une influence incroyable. Suite à ses choix, ce qu'on va voir juste après, il va faire partie des hauts fonctionnaires. Il est vraiment à la tête du gouvernement de ces trois rois qui vont se succéder, jusqu'à à peu près 536 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant environ 70 ans, trois royaumes différents, et vous savez, quand il y avait changement de gouvernement, souvent les têtes tombaient vite. Mais lui et ses trois amis, ils vont rester à la tête pendant ces trois dynasties. Déjà, juste, c'est incroyable. Pourquoi tout ça? Et pendant tout ce temps-là, ils sont déterminants pour le peuple de Dieu, pour les projets de Dieu, mais aussi pour ce royaume païen. Il était réputé déjà dans son temps, et bien sûr aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait que Daniel était un homme si réputé? Pourquoi il était réputé? Si tu veux mettre la slide suivante. Il était, à son époque, connu pour sa justice. Regardons ce qu'Ézéchiel, prophète qui est contemporain de lui, écrit sous l'inspiration de Dieu. S'il s'y trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, donc Noé et Job sont bien avant Daniel, Daniel c'est un contemporain d'Ézéchiel, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. Daniel, dès son époque, alors qu'il démarre très jeune, il a une réputation de justice et d'intégrité qui va bien au-delà juste de son cercle d'amis. On l'écrit, le prophète l'écrit. Donc il avait cette réputation et c'est pour ça que Dieu lui donne cette place. Il était connu aussi pour sa sagesse. C'est toujours Ézéchiel qui le dit un peu plus loin, chapitre 28, verset 3. C'est quand il parle de Satan et de la chute de Satan. Mais il va dire cette phrase incroyable, « Tu te crois plus sage que Daniel, aucun mystère n'est trop grand pour toi. » Daniel était une référence pour la sagesse dès son vivant. C'est incroyable quand même. Il était connu comme un homme avec une sagesse surnaturelle. Ensuite, Jésus va en parler, on parle souvent de Daniel. Donc c'est un homme qui a une réputation vraiment incroyable. On va voir ensemble ses choix. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de Daniel? Pourquoi on lit ses textes? Pourquoi il a été utilisé comme ça? Il y avait des tas d'autres jeunes que ces quatre qui ont été emmenés à Babylone. Et des autres, on n'en parle pas. Mais c'est parce que Daniel, je crois, première chose, ne l'oublions pas, c'est en Dieu. Dieu avait un appel pour lui, il y avait une vocation, il y avait un plan pour lui et ses quatre. Mais je crois que c'est juste de dire que Dieu a un plan et un appel pour bien plus que juste une élite et quelques personnes. Et Daniel aurait pu passer à côté de son plan. Jésus reproche aux pharisiens, par exemple, il dit « Vous avez anéanti le projet de Dieu pour vos vies. Vous avez rendu nul le projet de Dieu pour vos vies. » On peut anéantir le projet de Dieu pour nos vies. Ces pharisiens, probablement, qui avaient un appel sur leur vie, ceux qui côtoyaient Jésus, à être des enseignants, à être des bergers, à être les leaders du peuple. Mais ils se sont laissés corrompre par l'ambition, par de mauvais enseignements, et Jésus leur dit, vous avez rendu nul le projet de Dieu pour vos vies. C'est terrible. Donc c'est important qu'on se rappelle ça. On peut anéantir les projets que Dieu a pour nous. On peut y entrer, on peut vraiment rater, on peut y entrer partiellement, on peut y entrer de différentes manières. Daniel, je crois que c'est l'exemple d'un homme qui prend conscience que Dieu l'appelle, il aime Dieu depuis son enfance, il le sert, mais à un moment donné, dans une période critique, alors qu'il est tout jeune, il est emmené dans cette situation qu'on va voir là, il va faire des choix qui vont déterminer sa vie, et c'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. Vous êtes d'accord? C'est parce qu'à un moment donné, il va faire des choix déterminants et il va permettre à Dieu de l'utiliser. En fait, quand il se lève, il a commencé de se lever avant, il se met debout, dans ses prises de position, dans sa foi, Et c'est à cause de cela qu'on le voit encore aujourd'hui et qu'il va être utilisé par Dieu de manière si puissante. Donc ses choix vont déterminer sa vie. On va lire le texte qui est juste là, chapitre 1. Ce n'est pas tous les versets, j'ai coupé quelques points. Alors que le roi les a choisis, puis il veut les former, il veut leur donner de la bonne nourriture, la meilleure instruction, etc., etc., pour en faire des leaders, on voit ici dans ce texte que Daniel va faire des choix déterminants. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Suivant les traductions que vous avez, c'est « arrêta dans son cœur », fut déterminé de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Dieu accorda, et puis après j'ai coupé le texte, hein, et on voit que pendant 10 jours, ils vont être mis à l'épreuve, ils vont pas manger tout ce que le roi leur donnait. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils étaient juifs, ils avaient une manière de manger où ils voulaient honorer la loi. Il y avait des mecs qui ne pouvaient pas manger, mais certainement aussi que beaucoup des choses de nourriture qui étaient données là avaient une connotation païenne. Il y avait probablement des sacrifices, il y avait des choses comme ça, des consécrations et des idoles. Et Daniel et ses amis ne veulent pas se souiller, veulent honorer Dieu. Et donc pendant 10 jours... on ne lit pas ce texte, mais ils sont mis à l'épreuve. Et puis ils vont dire, bah, tu verras bien si au bout de 10 jours, on est en meilleure forme que les autres. Si ce n'est pas le cas, ben, tu feras de nous ce que tu veux. Ils font un acte de foi. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer les visions, toutes les visions et tous les rêves. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Amen. J'aime tellement le livre de Daniel. On voit le résultat. Ils font ce choix décisif de ne pas se souiller avec les mets dont le roi voulait leur donner. On va voir qu'est-ce que ça peut signifier pour nous. Puis il y a ces 10 jours d'épreuve, ils mettent leur vie sur l'autel, ils disent on va faire ce choix, on ne va pas utiliser les stratégies d'ici-bas pour être influent, mais on va chercher Dieu, on va le mettre en premier. Et le résultat, c'est qu'après ces 10 jours, ils ont meilleure mine, plus d'embonpoint que tous les autres, mais surtout, on vient de le lire, Dieu leur donne une sagesse surnaturelle, une capacité d'interpréter les rêves, capacité de répondre à tout cela, ils savent, ils deviennent sages aussi dans simplement la culture de l'époque. 10 fois supérieurs à tous les mages et astrologues présents dans le royaume. Et pourtant, Babylone, c'était le top du top. Hein. C'était le sommet de la culture et de la connaissance spirituelle de l'époque, souvent dépravée. Quand on veut chercher Dieu, quand on veut sa sagesse, quand on veut qu'il nous dirige, et que ça fasse une différence, et que ça a un impact. Je crois que c'est la démarche dans laquelle vous êtes. Mettons-le à la première place, et faisons des choix radicaux. C'était radical hein, pour eux. Ils ont mis leur vie dans ce choix. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce qu'ils ont décidé d'honorer Dieu. Vous vous souvenez Abraham et Lot, qui marchent ensemble, c'est bien avant Daniel. Abraham est béni par Dieu, puis Lot est béni parce que Dieu a béni Abraham. Puis à un moment donné, ils deviennent tellement nombreux qu'il y a des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et puis Abraham qui est sage dit, il faut qu'on se sépare parce qu'on est... Voilà, Dieu nous a tellement bénis, il faut qu'on puisse grandir chacun de notre côté. Et qu'est-ce que va faire Lot? Il regarde le pays... Il voit les richesses des vallées qui sont abondantes et puis il choisit d'aller là, il choisit avant Abraham. Puis Abraham, lui, va rester dans les hauteurs où c'est peut-être plus difficile d'élever des moutons. Mais qu'est-ce que ce texte veut nous apprendre? Abraham, il a voulu continuer à chercher Dieu et pas les richesses d'ici-bas de ce monde. Lot, alors que Dieu l'avait béni, qu'il avait des capacités, qu'il avait un avenir, il se laisse attirer vers les choses d'ici-bas ou peut-être la facilité. Et on connaît l'histoire, hein. Lot va finir dépravé, va perdre sa famille, va, même s'il est cité comme juste, quand même dans le Nouveau Testament, mais il va perdre sa famille, il va tout perdre. Et Abraham, la bénédiction continue à l'accompagner. Là aussi, il y a un choix important. C'est un peu ce qu'ont fait Daniel et ses amis. Il dit, on pourrait suivre ce que ce monde nous propose. Et on serait au top avec la société qui nous environne. On aurait notre page Facebook, notre chaîne YouTube, on aurait des millions de followers sur Twitter, parce qu'on est au top du top. Mais ils ont décidé de dire, non, on va mettre Dieu en premier. Et ils décident de ne pas se souiller. Et c'est ça qui va changer toute leur vie. Si on peut mettre le verset suivant. L'apôtre Paul, quand il parle aux chrétiens, à des rachetés, à des sauvés, à nous. Daniel et ses amis étaient enfants d'Israël, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Mais ils ont mis en pratique ce verset. On se comprend, hein, avant la venue de Jésus. Mais Paul, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Daniel, il avait compris que sa vie sans Dieu, elle était déjà morte. Et c'est ce que Paul dit juste avant. Il dit, car vous êtes morts. Dès qu'on est devenu enfant de Dieu, notre vie liée, attachée à ce monde ici-bas, elle est déjà morte. Elle est déjà morte. On peut continuer de la vivre, mais elle va juste s'arrêter quand ce monde s'arrêtera, puis il n'y a rien qui demeurera. Et Paul, il dit aux chrétiens, il dit, mais depuis que Jésus vous a racheté, vous avez un avenir céleste, même si vous vivez bien ici-bas, que vous avez votre travail, tout ce qu'on connaît. Mais il dit, votre attention, votre affection, vous devez la mettre en haut, dans les choses qui sont du ciel. Et c'est ça que vous devez chercher en premier. Parce que c'est ça qui va demeurer. C'est ce qu'ont fait Daniel et ses amis. Ils ont décidé, de manière radicale, de mettre Dieu en premier et de s'attacher aux choses d'en haut. Et on voit la bénédiction qui vient sur eux, mais ils sont source de bénédiction jusqu'à aujourd'hui pour nous. Recherchez les choses d'en haut. Ce texte est fort, hein ? Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est pour ça que Daniel, je vais conclure, mais quand on lit la suite de son livre, on connaît tous dans la fosse aux lions, ça c'est lui qui va dans la fosse aux lions, dans la fournaise ardente, c'est ses amis, toutes ces épreuves qu'ils vont vivre. Mais tout ça, ils en sortent vainqueurs à cause de ce premier choix. Vous êtes d'accord avec ça ? Qui est déterminant dans leur vie. La marque d'alliance pour le peuple juif, c'était la circoncision. C'était une marque dans leur chair. Mais dès l'Ancien Testament, Dieu dit, ce que je veux, c'est que vous circoncisiez vos cœurs. Et puis le Nouveau Testament nous montre que la nouvelle naissance, quand on s'attache aux choses d'en haut, c'est ça, circoncire son cœur. Circoncire, ça veut dire couper tout autour. Et Daniel, il a coupé tout autour de lui ce qui le rattachait à ce monde d'ici-bas, pour s'attacher aux choses d'en haut. Quand Paul il parle de la circoncision du cœur, il dit, c'est la mise à mort de notre nature terrestre pour nous attacher aux choses d'en haut. Et c'est ça l'alliance avec Dieu. Je crois que dimanche dernier, c'était le rachat. C'est la première pierre. On dépend du ciel. On dépend de ce que Dieu a fait. Et Daniel, c'est pour ça qu'il a une vie exemplaire. Qu'il va être un instrument pour donner des réponses clés à des rois, à des leaders. Et son livre, ce qu'il va écrire est plein de révélations qui nous touchent encore aujourd'hui. Je termine avec une deuxième chose. On ne va pas le lire. Mais qui était aussi déterminante dans les choix de Daniel, c'est sa vie de prière. Quand vous lisez, peut-être pourrez relire le livre de Daniel, mais on voit qu'il avait une vie de prière exemplaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait ses choix tout au début. Hein, La première grande épreuve qui arrive après ça, c'est quand on élève cette statue, et puis tout le peuple devra l'adorer. Quand la musique vient, une fausse adoration, on doit se prosterner. Et puis ces trois amis disent non, ils sont jetés dans cette fournaise ardente, ils sont sauvés. Puis après, de nouveau, un peu plus tard, il y a la même chose, celui qui prie un autre que le roi, on interdit de prier un autre que le roi. Et il est dit dans Daniel qu'il continuait à prier comme selon son habitude, matin, midi et soir. Puis on le jette dans la fosse aux lions. Mais quand il est dans cette fosse aux lions, eh bien Dieu ferme la bouche des lions, vous savez. Quand ses amis sont dans la fournaise, eh bien les flammes ne peuvent rien faire. Et même Nebuchadnezzar voit un quatrième personnage qui est comme un fils des dieux, il est dit. Et en fait, il voit Jésus. Jésus avant son incarnation qui marche avec eux. J'aimerais vous encourager ce matin, et je crois que Dieu va parler à cette église, va parler aux responsables, et qu'il y a comme une étape qui vient, parce que Dieu utilise souvent les moments compliqués, puis simplement la vie, c'est aussi une suite d'événements. Repensez à Daniel et au choix qu'il a fait. Il a été déterminé à chercher Dieu, à le mettre en premier. Il a coupé les ressources qui venaient simplement de la sagesse du monde. On peut construire une église, on peut choisir un pasteur, on peut choisir un futur leader, on peut choisir des objectifs avec des stratégies qui sont vraiment bien humaines. Hein. Et on sait le faire, même dans les églises évangéliques, charismatiques, avec tous les termes que vous voulez. Mais Daniel, il a cherché Dieu. Il a fait des choix radicaux. Et je crois que le Seigneur veut vous encourager, il veut vous encourager à vous tenir debout, comme on l'a lu au début. Vous êtes ses bien-aimés, mettez-le en premier. Et il va vous donner une sagesse surnaturelle pour comprendre les choix dans lesquels vous devez être. Amen. Et puis, on a cité tout au début, si tu peux remettre la toute première slide. Si on veut comprendre Dieu simplement avec notre compréhension, on va limiter ce qu'il va faire. Est-ce que nous croyons que Dieu a des plans qui nous dépassent ici pour vers soi? Amen. Mais est-ce qu'on le croit réellement? Oui, je sais, on dit toujours ça. Mais en même temps, vous savez comme moi qu'on ne peut pas dire autre chose que ça. Mais à un moment donné, il y a l'action de le saisir et d'y aller. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça que Dieu a en réserve pour vous. Quelque chose auquel on n'avait pas imaginé, que Dieu aimerait vous donner. Seigneur, on te remercie pour Daniel. Cet homme qui est... Tu vois, tout devait mal démarrer pour lui. Son pays est jugé. Son pays a été désobéissant. Son peuple a désobéi. Peut-être même ses parents faisaient partie de ces gens désobéissants. Et peut-être même lui quand il était là-bas. Et tout lui est volé avec ses amis. C'est comme si tout avenir est détruit. Mais Seigneur, tu avais un plan pour sa vie, pour ses amis. Et il a été déterminé à te mettre en premier. Et toi, tu n'as jamais fini avec nos vies. Et on te remercie parce que en fait, au travers de ces circonstances difficiles, tu en as fait un instrument pour ta gloire, pour ce pays, pour Babylone, mais aussi pour son peuple Israël. Et je prie pour vers soi ce matin, pour les responsables, pour chaque membre. Seigneur, conduis-les dans cette année de discernement, de sagesse, de recherche de toi. Seigneur, je prie que, comme Daniel, ils reçoivent des révélations étonnantes, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut faire silence un petit instant? Je cède ensuite la place à la présidence, mais une ou deux minutes où on laisse le Seigneur nous parler. Et peut-être pour quelques-uns, il y a cette question, c'est quoi ces mets du roi que tu dois laisser? Ces choses qui sont bonnes, qui même humainement peuvent apporter de la satisfaction, de la réussite, et... mais que tu dois laisser tomber pour recevoir ce que Dieu veut donner. Et c'est où aussi où Dieu te dit, tiens-toi debout là où je t'ai placé. Peut-être que c'est une parole, je crois que c'est une parole pour plusieurs, où tu dois intérieurement prendre cette position. Tiens-toi debout là, reste ferme, proclame-le avec ta bouche, proclame-le avec ta foi. C'est peut-être une situation particulière, une position, un service. Merci Seigneur, merci Seigneur. On met tout ça entre tes mains, on s'attend à toi pour cette année. Au nom de Jésus. Amen.